Bonjour à tous. La gestion financière pour un professionnel de santé en France, oula, ça peut vite faire peur, non? Surtout avec les règles qui changent tout le temps.
Exactement.
Aujourd'hui, on va essayer de décrypter ensemble les obligations comptables les plus importantes pour 2025 en s'appuyant sur les infos qu'on a pu réunir.
Oui, l'idée, c'est vraiment de sortir l'essentiel pour que ce soit plus clair. Comment on choisit son régime fiscal, c'est quoi les règles pour bien tenir ses comptes, et puis comment on peut optimiser un peu tout ça, tout en restant bien sûr dans les clous. On va essayer d'éclaircir les points fondamentaux.
Parfait. Alors, on commence par quoi? Peut-être le tout début? Le choix du régime fiscal, c'est souvent la première grosse question, j'imagine?
Tout à fait. En gros, il y a deux options principales. D'abord, le régime micro-BNC.
Micro-BNC, ok.
Voilà. Accessible si on fait moins de 77 700 € de recettes par an. Le gros avantage, c'est que c'est simple. L'administration fiscale applique un abattement de 34%.
34%?
Oui, 34%. C'est un forfait qui est censé couvrir toutes les charges, donc pas besoin de tout calculer au centime près, pas de justificatif de dépenses à fournir pour cet abattement-là. C'est assez direct.
Simple, oui, c'est sûr. Mais si on a justement beaucoup de frais, je pense à un loyer de cabinet élevé, ou si on achète pas mal de matériel, ces 34%, ça peut vite être moins intéressant que les frais réels, non? C'est quoi l'alternative dans ce cas?
C'est justement ça l'alternative, le régime de la déclaration contrôlée.
D'accord.
Alors lui, il est obligatoire si on dépasse les 77 700 €, mais on peut aussi le choisir même si on est en dessous, c'est une option. Et là, l'approche est complètement différente, on ne parle plus d'abattement forfaitaire, on déduit les charges qu'on a vraiment eues. Le loyer, oui, le petit matériel, les cotisations sociales, les frais de déplacement pro, tout ça.
Ah oui, donc là, ça peut être fiscalement plus juste si on a des charges qui dépassent nettement les 34% des recettes. Mais j'imagine, la contrepartie, c'est plus de paperasse, une gestion plus lourde.
C'est ça.
C'est ça qui peut freiner un peu, non?
Même si on pourrait y gagner. C'est exactement ça. C'est le cœur du choix. La déclaration contrôlée, ça demande clairement plus de rigueur. Il faut une compta précise, vraiment suivie au jour le jour. Ce n'est pas juste une contrainte, c'est aussi ce qui permet de justifier toutes ces déductions et puis d'avoir une vision claire de la santé financière de son activité. C'est important aussi pour ça.
Et concrètement, cette rigueur, ça se traduit comment au quotidien? Quels sont les documents ou les outils indispensables?
Alors, sous ce régime de la déclaration contrôlée, il y a deux documents vraiment centraux. D'abord, le livre journal des recettes et des dépenses.
Le livre journal, ok.
Voilà, c'est un enregistrement chronologique. Tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Et ensuite, il y a le registre des immobilisations et des amortissements.
Ah oui, les immobilisations. C'est pour le matériel qui dure longtemps, c'est ça? Le gros équipement?
Exactement. Le matériel médical un peu coûteux, l'équipement informatique, le mobilier du cabinet, tout ce qui ne se consomme pas tout de suite. Et l'amortissement, c'est juste étaler le coût de ce bien sur sa durée d'utilisation.
D'accord. Et puis, il y a cette fameuse règle d'or qu'on entend toujours. Gardez tous les justificatifs. Les sources insistent bien là-dessus, au moins 10 ans de conservation. Une décennie de factures et de relevés. C'est un vrai engagement, mais j'imagine que c'est vital s'il y a un contrôle fiscal.
Ah mais c'est absolument indispensable. Sans justificatif, pas de déduction possible en déclaration contrôlée. C'est aussi simple que ça. Et c'est là qu'on voit la puissance de ce régime. Pouvoir déduire précisément toutes ces charges réelles. C'est un levier d'optimisation qui n'est pas négligeable.
Justement, parlons-en de ces dépenses déductibles. Les sources donnent pas mal d'exemples. On pense tout de suite au matériel médical, le stéthoscope, le tensiomètre, les consommables, les loyers, les charges du cabinet, les frais de voiture pour les visites à domicile.
Oui, tout ça, bien sûr. Et il faut surtout pas oublier les cotisations sociales obligatoires, l'URSSAF et puis les caisses de retraite spécifiques. La CARM pour les médecins, la CARPIMCO pour les infirmiers, kinés, etc. Ce sont souvent de très gros postes de dépenses.
C'est vrai.
Les frais de formation continue aussi, le DPC, ça rentre dedans?
Ah oui, le DPC. Et j'ai vu aussi mentionner des choses parfois moins évidentes. Par exemple, les frais de blanchisserie pour les blouses, si elles sont utilisées uniquement pour le travail, ou même les honoraires de l'expert comptable si on décide de se faire aider. C'est bon à savoir.
Tout à fait. La liste peut être assez longue. Le point essentiel ici, vraiment, c'est la discipline. Il faut absolument séparer très clairement ce qui est professionnel de ce qui est personnel. Seules les dépenses pro sont déductibles. C'est un point de vigilance constant. Il faut faire gaffe à ça pour éviter les erreurs qui peuvent coûter cher en cas de rectification.
Logique. Et pour s'y retrouver dans tout ça, j'imagine qu'il y a des outils qui peuvent aider. On n'est pas obligé de tout faire à la main sur un cahier, si.
Non, heureusement. Un bon logiciel de comptabilité, c'est vraiment un allié précieux. Il y en a des spécifiques pour les professions libérales. Penylen est cité comme exemple dans les documents qu'on a consultés. Ces logiciels facilitent énormément le suivi, ils réduisent le risque d'erreur et ils aident aussi à préparer les déclarations fiscales et sociales.
Et surtout, j'imagine, ils peuvent aider à ne pas rater les échéances. Parce qu'il y en a pas mal, des échéances.
Ah oui, c'est un point crucial. La déclaration de revenus professionnels, la BNC, c'est généralement en mai qu'il faut la faire. Et puis, les cotisations sociales, l'URSSAF, la retraite, ça a ses propres calendriers, souvent mensuels ou trimestriels. Rater une échéance, ça veut dire pénalité, majoration, ça peut vite grimper. Donc oui, le respect des délais, c'est fondamental.
Et un petit mot rapide aussi sur la facturation. J'imagine que ça suit un peu la même logique. Des mentions obligatoires à mettre sur les factures. Et là aussi, cette obligation de les conserver 10 ans.
Ce lien avec le DPC est intéressant aussi. On pense souvent formation médicale, mais visiblement se tenir à jour sur la gestion, la compta, ça fait partie du jeu.
Exactement. Pour résumer, pour 2025, une bonne gestion comptable pour un professionnel de santé, ça repose sur quelques piliers simples mais essentiels. Bien choisir son régime fiscal au départ, tenir ses comptes avec beaucoup de rigueur, surtout en déclaration contrôlée, bien identifier toutes les charges qu'on peut déduire et respecter scrupuleusement les échéances. C'est la clé pour être en règle, bien sûr, mais aussi pour assurer la bonne santé financière de son activité. Et franchement, se faire accompagner par un expert comptable, c'est souvent un très bon investissement.
Tout à fait. Et ça soulève une question, pour finir, qui dépasse un peu le simple cadre légal ou financier. On pourrait se demander, est-ce qu'une maîtrise plus fine de tous ces chiffres, de cette gestion, ne pourrait pas au final libérer du temps ou de l'énergie mentale pour se concentrer encore plus sur ce qui compte vraiment, le soin apporté aux patients. C'est une piste de réflexion intéressante pour chacun, je trouve.